Radio Okapi. À la présentation du journal, Belinda Bossouma. Okapi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé le 30 décembre dernier à Kinshasa, Lubumbashi et à Kindu? Deux ministres ont été interpellés au Sénat à ce sujet. Il s'agit du ministre de la Défense et celui de l'Intérieur. Kasaï Oriental, interdiction pour l'UDPS d'organiser des manifestations en Mbujimayi, mesure prise par le Conseil provincial de sécurité, mais ce parti brandit l'article 26 de la Constitution qui garantit la liberté de manifester. Et puis, plus de 59 millions de dollars américains, c'est le financement de l'Agence britannique de coopération et développement pour lutter contre le paludisme en RDC, projet lancé ce mercredi à Kinshasa. Bonsoir. Ce journal part de Kinshasa avec l'interpellation ce mercredi au Sénat du vice-premier ministre, ministre de la Défense et celui de l'Intérieur. C'est suite à la question d'actualité leur adressée par le sénateur Modeste Mutsinga concernant les événements qui se sont déroulés simultanément à Kinshasa, au Katanga et dans la province du Maniema le 30 décembre dernier. Selon le sénateur, le peuple congolais a le droit de savoir à travers ses élus ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Ainsi, plusieurs questionnements ont été soulevés par ce sénateur. Le point avec Jacques-Yves Molima.
Les attaques qui se sont déroulées de manière simultanée dans trois provinces laissent transparaître une action planifiée et coordonnée. De ce fait, Modeste Mutsinga voudrait savoir comment les services de sécurité de l'État n'ont-ils pas eu vent de la préparation de ces complots. Des endroits stratégiques supposés hautement sécurisés ont fait l'objet de ces attaques. Quelles sont les causes de cette défaillance? Les assaillants et les commanditaires ont-ils été identifiés et les responsabilités établies? Et Modeste Mutsinga de chercher à savoir si des mesures d'encadrement sont prises. Pour sa réplique, le vice-premier ministre en charge de la Défense, Alexandre Lubantambo, a fait savoir que la perquisition d'une résidence d'un adepte de Mukungu Bila Lubumbashi prouve que les services étaient au courant. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyege, est revenu sur certaines mesures prises à cet effet.
Mis sur pied d'une commission ad hoc, lancement d'un mandat d'arrêt contre le prophète Mukungu Bila, fermeture du ministère de la Restauration de Jésus-Christ, redynamisation de la cellule de renseignement afin d'assurer une plus grande coordination des opérations éventuelles contre ce type d'attaque.
L'occasion pour le ministre de demander l'octroi d'un budget conséquent pour les services de sécurité et de défense.
Et justement, ces incidents du 30 décembre dernier, les cas d'insécurité signalés au Katanga ainsi qu'à l'Équateur et en province orientale interpellent la MONUSCO résolue à déployer les 90% de ses troupes dans la partie est du pays. Affirmation aujourd'hui à Kinshasa au cours de la conférence de l'ONU du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC en charge de l'Est. Pour le général Abdallah Wafi, c'est bien de concentrer toute la force de la MONUSCO dans la traque des forces négatives dans l'est du pays, mais il est aussi important de se préoccuper de l'ensemble de la situation sécuritaire de la RDC. Le général Wafi, dans cet extrait choisi par Michel Kifindangoy.
Aujourd'hui, les éléments de la SELECA, leur présence a été signalée dans certaines localités de la province orientale, au point où les populations locales ont pris peur et sont en train de fuir ces zones. Il faut prendre toutes les dispositions pour que ce qui s'est passé à l'est de la RDC ne se reproduise pas aujourd'hui dans l'Équateur ou la province orientale. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est l'ensemble de la situation sécuritaire en RDC quand même. Le Katanga, que nous considérions comme une province stable, où nous avons retiré nos forces pour les redéployer dans le nord Kivu, au sud Kivu, dans l'île. Aujourd'hui, il se passe des semaines sans qu'on nous signale des éléments armés, Katakatanga, qui s'attaquent encore, y compris la ville de Lubumbashi, fait l'objet d'attaques récurrentes de la part de ces groupes. Mais encore une fois, pour en revenir aux événements du 30 décembre, même Kinshasa n'est pas à l'abri de ce genre d'événements. Et le moment venu, nous allons voir comment nous, au niveau de la MONUSCO, nous adapter pour appuyer les autorités nationales pour faire face à ces différentes menaces, parce que c'est l'objectif que nous poursuivons.
Entre-temps, au nord Kivu, nous apprenons le retour progressif dans le Nyiragongo de certaines personnes qui avaient fui la guerre. Information confirmée par l'administrateur de ce territoire, Dominique Bofondo, appelle la population au calme et la rassure que ses compatriotes peuvent rentrer, mais sous contrôle des autorités administratives et sécuritaires. L'administrateur explique que ce retour des citoyens congolais ayant collaboré avec le M23 n'est pas interdit. Il dit avoir reçu des instructions du gouverneur de province pour les accueillir et les enregistrer. Toutefois, il condamne le fait que certaines personnes rentrent clandestinement et armée, échappant ainsi au contrôle de l'armée. Dominique Bofondo, joint par Sifa Maguru.
Donc la procédure est simple. Si vous voulez rentrer chez nous avec votre arme ou sans arme, la première des choses, c'est de se présenter d'abord au territoire. En se présentant au territoire, l'administrateur du territoire va vous orienter au service concerné, c'est le service de l'État civil qui va vous enregistrer. Et dans l'entretemps, nous allons tenter comment vous contrôler, comment vous suivre dans tous vos mouvements.
Et donc, vous confirmez que le retour de ces personnes n'est pas interdit ou exclu, même si jusque-là, ils rentrent clandestinement, ils sont quand même le bienvenu.
Bon, pour nous, il n'y a pas de problème, ce sont nos frères congolais. Miragongo, c'est leur territoire, ils sont nés là-bas, ils sont grandis là-bas. Nous avons besoin qu'ils changent tout simplement. Non, la population doit comprendre que nous avons intérêt à les faire changer.
Notez que dans une déclaration publiée mardi, la société civile de Niragongo qualifie cette situation de préoccupante. Elle demande au gouvernement d'identifier ces personnes qui rentrent. Préoccupation également exprimée par les habitants de Rutshuru qui redoutent une cohabitation difficile. Direction le Kasaï oriental où la tension monte dans la ville de Mbujimayi à 24 heures de début des manifestations annoncées par l'UDPS. Ce parti politique entend revendiquer la mise en liberté de son membre arrêté par l'ANR jeudi dernier, alors qu'il venait de participer à une émission de débat politique. Mais au cours d'une réunion extraordinaire hier, le Conseil provincial de sécurité interdit les dites manifestations. Chris Mukand m'attend.
À l'issue de la réunion présidée par le gouverneur Alphonse Ngoy Kassangi, le Conseil provincial de sécurité annule la marche pacifique prévue ce jeudi. Toute tentative de manifestation susceptible à paralyser les enquêtes seront sévèrement châtiées, indique Hippolyte Mutombo-Mbwebwe, porte-parole du gouvernement provincial.
En aucun instant que personne ne puisse paralyser les enquêtes de la justice. Cela devra être sanctionné sévèrement et au regard de cela, toutes les actions qui tendent à empêcher les enquêtes ne sont pas autorisées. Ainsi, pas de marche, pas de sit-in, pas de ville morte pour soutenir une action terroriste.
À l'UDPS, l'on soutient que l'article 26 de la Constitution garantit la liberté de manifester. Les manifestations prévues auront donc bel et bien lieu à partir de ce jeudi, indique Denis Kalombo, président de l'UDPS Fédération de Mbujimayi.
Une marche pacifique garantie par la Constitution. Où est le problème? Pourquoi est-ce que chaque fois que nous nous demandons, on veut nous dire non, il y aura débordement, il y aura ceci, ce sont des fauteurs à notre trouble.
La Molisco, de son côté, se propose de rencontrer les responsables de l'UDPS pour une solution concertée. Mbujimayi. Chris Mukand, Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, 36 millions de livres sterling, soit plus de 59 millions de dollars américains, c'est le financement de DeFi-ID au projet de lutte contre le paludisme, projet lancé aujourd'hui à Kinshasa. Ce projet dont l'exécution est confiée à l'Association des santé familiales entre dans le cadre de l'assistance de l'Agence britannique de coopération et de développement à la RDC pour l'atteinte des objectifs du millénaire, la santé étant l'un des points importants de ces objectifs. Explication, Jocelyne Moussaoponde.
Ce projet comprend trois volets. Il vise notamment à augmenter la disponibilité et l'accessibilité des antipaludéens de qualité dans le secteur privé. Selon l'Association de santé familiale, 2,6% seulement des antipaludéens présents sur le marché sont de bonne qualité. Nestor Ankiba, administrateur délégué de l'ASF.
Ce projet va consister à rendre disponibles et accessibles les antipaludiques dans les pharmacies du secteur privé, de sorte que la population qui s'adresse à ce secteur à 70% ait accès aux antipaludiques de bonne qualité.
L'autre composante du projet, c'est le renforcement des capacités du Programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, en gestion et utilisation des données. Enfin, le projet prévoit la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée. 4,5 millions de moustiquaires seront distribués à la population du Kasaï occidental, estimée à environ 9 millions d'habitants. Le PNLP affirme qu'en dehors de cette mesure, elle procède également à la pulvérisation d'insecticides dans certaines zones de santé, mais seulement en cas de résistance de moustiques à certains insecticides. Notez que presque un tiers des décès en RDC sont causés par le paludisme.
Dans l'actualité, notez aussi que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a présenté officiellement le projet de loi des finances pour l'exercice 2014 aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ce budget est présenté en équilibre, en recettes comme en dépenses, à un peu plus de 7 milliards de francs congolais. À comparer au budget de l'exercice 2013, il se dégage un taux d'accroissement de 4,9%. Encore dans la province Orient, plutôt la province de l'Équateur, 15 enfants sont morts de paludisme en deux jours à Yaloya, dans la zone de santé d'Ikela. Yaloya, située à environ 120 km au sud d'Ikela, province de l'Équateur, chiffre donné ce matin par le médecin chef de zone de santé. Selon Dr Jean-Pierre Lilonga, le nombre d'enfants malades s'élève à 75 cas. Reportage de Victor Lokwa, rendu par Benjamin Yogolelo.
Les enfants malades sont âgés de 0 à 5 ans. Selon le médecin chef de la zone de santé, les causes des décès sont multiples. Certains parents d'enfants malades, affirme-t-il, arrivent dans les centres de santé avec des enfants presque mourants. Selon Dr Jean-Pierre Lilonga, d'autres parents amènent carrément leurs enfants chez les tradis praticiens, où ils se réfugient avec leurs enfants malades dans des églises de réveil. Selon Dr Lilonga, ceci est en partie à la base de plusieurs décès. Pour les parents d'enfants malades, la mauvaise qualité des soins dans les centres de santé les pousse à fuir les centres de santé. Argument rejeté par le médecin chef des zones de santé d'Ikela. Pour lui, les soins de qualité sont administrés aux enfants dans les centres de santé.
Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.